Bonjour à tous, aujourd'hui encore l'économie se met à l'heure de Pékin.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
La guerre commerciale est passée par là et l'épidémie de coronavirus risque d'aggraver encore le phénomène. La Chine a connu en 2019 sa plus faible croissance depuis près de 30 ans. La richesse du pays augmente désormais de 6% contre une moyenne de 9% jusqu'ici. Quatre décennies après la libéralisation voulue par Deng Xiaoping, le modèle économique de la Chine se transforme, mais le rêve promu par Xi Jinping semble s'éloigner. La puissance chinoise s'essouffle et son expansion à travers le monde marque le pas. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'économie chinoise va-t-elle poursuivre son essor dans le monde ? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos deux invités. Joël Ruet, chercheur au Centre d'économie de Paris Nord, spécialiste des pays émergents, et Jean-François Dufour, en duplex d'Aix-en-Provence, directeur de DCA Chine Analyse, un cabinet de conseil auprès des entreprises européennes en Chine. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Jean-François Dufour et Joël Ruet.
Bonjour Tiffaine de Rocchini.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors cela fait maintenant près de 10 ans que le taux de croissance de la Chine décroît chaque année. En 2010, il était de 10,6% contre 6% seulement aujourd'hui. Est-ce qu'il faut parler de hard landing, de freinage brutal, Joël Ruet, ou de simple ralentissement de l'économie chinoise ?
Je crois que c'est un ralentissement. Et derrière ce ralentissement, il y a deux composantes assez différentes. Vous aviez une composante d'accumulation qui était très importante. Eh bien, cette accumulation ralentit rapidement. Mais vous avez une composante aussi de transformation et de modernisation de l'économie. Et je crois que si on s'amusait à faire un petit peu la distinction, eh bien, cette partie de la croissance chinoise s'accélère. La Chine se transforme de plus en plus vite et elle accumule de moins en moins de production de basse gamme.
Comment est-ce que vous qualifieriez ce ralentissement de l'économie chinoise, Jean-François Dufour ?
Alors, je serais tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que plus que d'un ralentissement, c'est d'une évolution qu'on doit parler. Avec deux aspects. Le premier, c'est que vous avez eu un changement de volume de l'économie chinoise. L'économie chinoise, il y a 20 ans, croissait effectivement de 10% ou plus. Mais par exemple, en 1995, c'était une économie qui avait la taille de celle de l'Espagne à l'époque. Donc, ce qui est loin d'être négligeable. Mais sans comparaison avec aujourd'hui, où on parle d'une économie qui est trois fois plus importante que celle du Japon. Donc, le phénomène de croissance sur de tels taux ne pouvait pas perdurer éternellement. Et le deuxième aspect qui vient d'être évoqué, qui me paraît encore plus important, c'est qu'on a un changement de phase de développement. C'est-à-dire que la Chine est passée d'un premier développement avec des objectifs surtout quantitatifs pour accumuler effectivement du capital à une deuxième phase où l'objectif cette fois est essentiellement qualitatif.
Changement de phase de développement qui se traduit aussi par une contraction du commerce extérieur, Joël Ruet. C'est l'un des principaux indices que l'on peut observer aujourd'hui.
Par un rééquilibrage, puisque la Chine avait un grand problème il y a 10 ans, c'est qu'elle exportait trop. Alors c'est vu comme un problème par M. Trump, mais ça a été déjà il y a 10 ans vu d'abord par un problème par la Chine elle-même, puisque tout ce qu'elle exportait, elle ne pouvait pas le consommer, l'utiliser ou l'investir sur sa propre économie. Alors elle se faisait payer certes, mais elle se faisait payer en devises que par définition elle ne pouvait pas utiliser sur son propre territoire, et donc elle accumulait de manière un peu stérile les devises. Et c'est cette grande contradiction qui a d'ailleurs été au cœur des politiques de Xi Jinping.
Il y a eu une volonté vraiment de la Chine de diminuer les exportations.
Oui, de rééquilibrer son économie. Et les deux allant avec, c'est-à-dire diminuer ses exportations pour pouvoir investir sur son propre sol.
Ce qui est intéressant de noter, c'est à la fois cette question des exportations qui diminue, mais aussi les investissements de la Chine à l'étranger qui ont largement chuté. On a observé une baisse de 30% en 2019 par rapport à 2018. Est-ce qu'il faut en conclure, Jean-François Dufour, que le chemin vers la modernisation économique de la Chine est fait d'aller et retour, d'ouverture et de refermeture ?
Alors, je pense que c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où sur la question des investissements à l'étranger, il faut pas être trompé par un effet d'optique. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement une baisse très marquée depuis maintenant 2017, mais qui correspond en fait au fait que les autorités chinoises sont très pragmatiques et qu'entre 2014 et 2017, elles ont fait en fait une tentative, qui était une libéralisation des mouvements de capitaux, pour voir si ça servait à leurs intérêts. Ce qu'elles ont constaté à ce moment-là, c'est une large majorité d'investissements de nature très spéculative. C'est l'époque où on a vu des groupes chinois racheter des hôtels de luxe, investir dans des clubs de football en Europe, par exemple. Mmh. Et à la fin de 2016, elles ont décidé de reprendre tout ça en main. Donc il faut pas se tromper, si vous voulez, derrière la baisse des investissements en volume qui est incontestable, les investissements qui comptent par rapport au projet des autorités chinoises, c'est-à-dire tout ce qui est dirigé vers notamment la technologie ou l'accès aux marchés les plus développés, eux ont tendance à se maintenir.
Moins d'investissements, mais des investissements plus ciblés à l'étranger, à Joël.
Oui, tout à fait d'accord. Un recentrage stratégique, une reprise de contrôle aussi par le pouvoir de Pékin sur les investisseurs. Hein. Les investissements aujourd'hui, les processus d'investissement sont beaucoup plus encadrés, beaucoup plus contrôlés que jusqu'en 2017. Et puis d'autre part, une distinction à faire d'une zone vers l'autre. Je pense qu'en effet, l'Europe, l'Amérique du Nord, certains pays asiatiques sont prioritaires pour les technologies et on y viendra peut-être, mais contrairement à ce qu'on pense, la Chine n'a pas de priorité d'investissement vers l'Afrique. Elle émet de la dette. Il y a des projets, mais il n'y a pas de priorité d'investissement. Donc, ciblage sur les technologies, ciblage sur les secteurs d'entreprise et puis ciblage géographique, oui.
Vous avez parlé d'évolution et vous préférez parler d'évolution de la Chine plutôt que de ralentissement de son économie. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut se fier tout à fait aux chiffres qui sont communiqués par Pékin? Est-ce que les statistiques ne sont pas un peu gonflées? Dans ce cas, est-ce que le ralentissement n'est pas plus marqué que ce que l'on observe?
Les statistiques n'ont peut-être jamais été juste, mais le système, l'écart à la réalité a pas tellement changé. Donc, en absolu, on n'a jamais très bien su, et puis on saura jamais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté des autorités locales de gonfler leurs statistiques pour se faire bien voir de Pékin, par exemple?
C'est compliqué, au bout d'un moment. Si vous voulez, les autorités locales ont été reprises en main également. En particulier, depuis 2 ans, les autorités locales, donc on parle des provinces, hein, puisqu'il y a un système de décentralisation partielle en Chine, et chaque province a son budget, en particulier son budget public, eh bien, le taux d'endettement des provinces sur les marchés et puis le taux d'endettement des provinces par rapport à Pékin est aujourd'hui relativement bien connu. On sait que les 2/3, voire les 3/4 des grandes provinces sont aujourd'hui dans une situation qui les place une situation non durable si elles n'ont pas l'appui financier de Pékin, et donc Pékin monnaie son appui financier contre des mesures de transparence. Mmh. Donc je crois que vraiment depuis 2-3 ans, on a des chiffres qui s'affinent.
Jean-François Dufour, sur la fiabilité des chiffres communiqués par Pékin?
Je suis exactement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que les statistiques chinoises sont relativement peu crédibles. Après, elles sont intéressantes en tant qu'indicateurs relatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, elles indiquent une décélération de la croissance. On n'a pas de vision précise, fine, sur ce qu'il y a exactement derrière les chiffres, mais par contre, la tendance est incontestable.
La Chine connaît aujourd'hui un ralentissement ou une évolution. On va en parler tout au long de cette émission, mais ce qu'il faut préciser, c'est que la Chine se rêve en superpuissance capable de rivaliser avec les États-Unis. Et c'est une ambition qui trouve peut-être son origine à la fin des années 70, avec la politique de réforme et d'ouverture lancée par Deng Xiaoping. Je vous propose d'écouter un reportage réalisé à Shenzhen, 20 ans après l'ouverture économique de la Chine, l'année de la mort de Deng Xiaoping.
Mon grand-père était allé à l'université, mais mes parents n'ont pas eu d'éducation. Ils ont dû retourner à la terre à cause de la révolution culturelle. Grâce à Deng Xiaoping et à ses réformes, mes frères et sœurs et moi, nous avons eu l'occasion de faire des études et j'ai pu monter mon entreprise.
Les systèmes de micro-communication ont permis à Hui Qiang non seulement de devenir son propre employeur, mais de faire travailler 50 personnes. Le secteur des télécoms mobiles est en telle expansion qu'en un an, son chiffre d'affaires sera multiplié par 50 et son bénéfice également.
Nous produisons des équipements pour messagerie électronique et téléphone portable en Chine continentale depuis 3 ans à peine. Et le potentiel est considérable dans ce domaine.
Plus ou moins cérémonieux, l'hommage s'est répété partout, bateaux, trains, voitures. À l'heure des funérailles, alors que la voix du président Jiang Zemin chevrotait d'émotion, Hui Qiang et sa famille suivaient la cérémonie télévisée.
En regardant ça à la télé, ça m'a fait l'effet d'avoir vraiment perdu quelqu'un de ma famille. Vous savez, l'effet qu'il a eu sur notre maison, notre vie, sur la vie de tous les Chinois a été considérable. Sans lui, il n'y aurait pas d'aujourd'hui.
Voilà, Joël Ruet, c'est véritablement Deng Xiaoping qui a ouvert la Chine à l'économie de marché à partir de 1978.
Alors, il a mis en place des réformes. Ouvrir à l'économie de marché, c'est pas complètement exact, en tout cas pas à tous les niveaux.
C'est venu plus progressivement.
Oui, même l'économie chinoise reste très encadrée et Deng Xiaoping lui-même a toujours eu une vision, pragmatique et segmentée. C'est-à-dire que dans l'économie rurale, il s'est dit, une économie de marché, mais au sens très strict du terme, d'un marché local sur lequel il y a une vente libre des biens qui pour inciter à plus de production, qui n'était pas le cas avant lui, là on est dans l'économie de marché pure et parfaite. Lorsqu'on passe au niveau municipal, il y a une économie qui est plus encadrée publiquement, le rôle des acteurs publics est beaucoup plus important, et lorsqu'on passe au niveau de l'État, eh bien le rôle des grandes entreprises, le rôle des régulations est là très important. Il y a du capital, il y a du marché, mais les marchés sont encadrés, sont régulés par des normes et puis par des appuis à l'investissement qui favorisent ou défavorisent certains acteurs. Donc on n'est pas dans un marché pur et parfait non plus.
Un marché encadré a vu le jour, Jean-François Dufour, avec des tests, des laboratoires économiques, comme la ville de Shenzhen, justement.
Oui, alors tout à fait, et je trouve qu'il est très intéressant de revenir sur ce reportage que vous venez de diffuser par rapport à l'évolution qu'on évoquait en début d'émission, parce que on est sur quelque chose de vraiment emblématique. Ce reportage, il y a 20 ans, est fait à Shenzhen, et donc une des personnes interviewées, qui est un petit peu la vitrine de la Chine à l'époque, c'est le patron d'une petite usine, d'un petit équipementier télécom. On ne peut pas ne pas avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, Shenzhen, c'est aussi et surtout le siège social de Huawei, le premier équipementier télécom mondial, avec plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une telle importance qu'il est au cœur du conflit avec les États-Unis. Donc je pense que ce reportage illustre vraiment de manière très frappante le chemin qui a été parcouru en 20 ans.
Et ce changement d'échelle qui a été effectué. Alors, Xi Jinping poursuit en tout cas ses ambitions à partir de 2013. Il commence à parler du rêve chinois. C'est le moment où la Chine assume de viser la première place sur le podium économique mondial, Joël Ruet.
Alors, vous parliez de laboratoire. Je crois que c'est très important. Je vais faire un lien entre Deng Xiaoping et Xi Jinping. Deng Xiaoping a lancé des laboratoires et Xi Jinping essaye aujourd'hui, de systématiser le côté laboratoire. C'est-à-dire que pour Deng Xiaoping, la Chine devait se développer devait se développer à plusieurs vitesses. Il fallait des vitrines, il fallait des laboratoires. Ça a été Shenzhen, Pékin, Shanghai, quelques grandes villes derrière et puis toute une gradation. Xi Jinping est apparu dans la gouvernance chinoise à un moment où la fenêtre de tir démographique qui restait à la Chine pour devenir riche avant d'être vieille, ou pour ne pas rester dans une croissance, dans un revenu par habitant de pays à revenu intermédiaire, cette fenêtre de tir se rétrécissait. Donc Xi Jinping se sent obligé, et si ça avait été quelqu'un d'autre ce serait pareil, les dirigeants chinois aujourd'hui se sentent obligés de d'accélérer nationalement, mais de diffuser ces zones de laboratoire à une partie la plus grande possible de la Chine, d'où le rôle des technologies de la communication, d'où le rôle des micro-réseaux, etc.
Et c'est dans ce contexte que Xi Jinping lance les routes de la soie en 2013.
Afin de resserrer nos liens économiques, d'approfondir nos relations mutuelles et de donner un nouveau souffle aux échanges entre les pays eurasiens, nous pouvons innover dans notre coopération en construisant ensemble une ceinture économique avec la nouvelle route de la soie. C'est le projet qui profitera à toutes les populations le long de cette route.
Jean-François Dufour, quel est l'objectif de ces nouvelles routes de la soie, également appelées la ceinture et la route, One Belt, One Road en anglais? C'est une espèce de plan Marshall?
Alors ça a effectivement quelque chose à voir avec le plan Marshall. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à mon sens, c'est souvent interprété comme étant un projet de nature géopolitique, alors que je pense qu'au départ, c'est essentiellement un projet de nature économique, vraiment. C'est-à-dire que la Chine est engagée dans cette évolution qu'on évoque depuis tout à l'heure, sur le passage de l'usine du monde à un des sièges sociaux du monde. En même temps, elle a un besoin de maintenir l'activité d'un certain nombre d'entreprises qui pèsent toujours lourd dans son économie. Et l'idée, si vous voulez, au départ des routes de la soie, alors qui sont un concept systématisé par Xi Jinping, mais qui reprend en fait de nombreux projets qui étaient en cours avant son arrivée, c'est un petit peu d'exporter le modèle de développement chinois des 20 premières années du développement, qui reposait sur les investissements dans les infrastructures, et qui est arrivé un petit peu à saturation en Chine. Si vous voulez, la Chine, paradoxalement aujourd'hui, est un pays presque suréquipé en infrastructures. Si on parle d'aéroports, de lignes ferroviaires, de ports. Et donc l'idée, c'est en fait d'exporter ce modèle dans des pays qui, eux, ont un besoin d'infrastructures et qui vont offrir des contrats aux entreprises de construction et aux équipementiers chinois qui ne sont pas statutairement, contractuellement associés au projet, mais qui, dans les faits, le sont forcément.
Joël Ruet, vous êtes d'accord avec cela? Un projet qui est d'abord économique avant d'être géopolitique?
Oui, alors quand deux économistes sont d'accord, c'est toujours inquiétant. J'espère que ça ne va pas durer, mais je suis tout à fait d'accord. C'est d'abord, alors sur la question du plan Marshall, moi dans mes interactions avec des décideurs chinois ou des diplomates chinois, je leur dis mais pourquoi vous communiquez pas sur le fait que ce n'est après tout qu'un grand plan Marshall? Alors ils se récrient, ils disent mais non, vous savez bien que le plan Marshall américain lancé à l'époque avait une dimension impérialiste. Nous ça n'est pas notre cas, etc. Donc ils ont une lecture qui est vraiment pour le coup extrêmement économique. Et je crois beaucoup plus sérieusement que ça. Je voudrais rappeler ce que je disais. Il y a 10 ans, sous Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, la Chine avait deux grands problèmes qu'elle n'arrivait pas à résoudre. D'abord un excès d'exportation qui donc amenait, un excès de liquidité qu'elle ne savait pas réutiliser, et d'autre part des capacités qui viennent d'être indiquées qui commençaient à s'amenuiser. Les routes de la soie ont d'abord été une politique de voisinage et elles ont consisté à créer des flux physiques entre des provinces qui n'étaient pas les provinces côtières du modèle de Deng Xiaoping, mais des provinces plutôt enclavées, et puis les pays voisins.
Ça permet de développer l'Ouest chinois.
Ça a développé l'Ouest chinois, mais surtout, en créant un flux physique, eh bien, vous recréez de l'activité dans ces provinces-là, tout en permettant de réinvestir les devises dans les pays voisins. Et donc, ça a été, la solution, la clé pour débloquer deux problèmes qui étaient insolubles, pris séparément, et qui ont été reliés. Et ensuite, Xi Jinping a, en bonne logique chinoise, a généralisé un concept qui marchait dans une politique de voisinage à un voisinage mondial.
Et le deuxième pilier de cette stratégie de Xi Jinping, vous l'avez évoqué, Joël Ruet, c'est la montée en puissance technologique. C'est le sens du plan Made in China 2025. C'est l'idée, Jean-François Dufour, que la Chine ne veut plus être l'atelier, mais le laboratoire du monde, le lieu de conception.
Alors c'est exactement ça, avec une toute petite nuance, c'est que je pense que l'idée, c'est d'être à la fois le laboratoire et de rester en partie l'atelier. C'est-à-dire que là, on retombe sur les questions qui viennent d'être évoquées, effectivement, du déséquilibre de la croissance chinoise et du développement économique. La Chine a des régions qui restent en besoin de développement et vers lesquelles, d'ailleurs, c'est très intéressant, elle a délocalisé une partie de ses activités. Par exemple, on est parti tout à l'heure de Shenzhen dans le reportage diffusé. Aujourd'hui, Shenzhen n'a plus qu'une part très marginale de l'assemblage électronique des produits de grande consommation qui a été basculé sur d'autres provinces de la comme le Sichuan ou le Henan, qui n'étaient pas du tout sur ce secteur auparavant. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de faire de la place dans les régions les plus avancées pour qu'elles se transforment en laboratoire, mais que malgré tout, ça garde un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie nationale.
Et ça passe par plusieurs mesures, je pense en particulier au plan 1000 talents pour attirer les meilleurs scientifiques mondiaux, mais aussi l'acquisition de technologies étrangères. C'est une stratégie à plusieurs niveaux, Joël Ruet.
Oui, mais je crois que c'est deux stratégies différentes, c'est-à-dire que les routes de la soie ou le Belt and Road Initiative ou le route et la ceinture, peu importe comment on l'appelle, se développent au même moment où, en effet, la Chine a promu le plan Chine 2025, dont elle parle beaucoup moins depuis que les États-Unis ont pris ombrage. Mais j'allais dire, il y a un lien assez ténu entre les deux, voire pas de lien du tout. C'est-à-dire que l'un des cas est vraiment, l'un des objets, l'un des outils est vraiment de recycler un appareillage industriel relativement ancien, de recycler des excès de liquidités, de devises de la séquence précédente. et l'autre consiste à développer la nouvelle séquence ou la future séquence de transformation de l'économie. Les deux sont menés de front, mais
deux
sans
stratégies parallèles.
Mais il pourrait y avoir l'une sans l'autre, vraiment.
Et dans cette deuxième stratégie dont on parle, qui est cette montée en puissance technologique, ce qu'on a constaté, c'est que la Chine avait largement investi dans ses propres géants du numérique, les BATX, qui sont censés concurrencer les GAFA. Comment est-ce qu'elle a réussi, Joël Ruet, à faire émerger ces champions?
Alors, il y a deux cas. Il y a Huawei. Et puis il y a les autres. Hein. D'ailleurs, Huawei n'est pas dans les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi.
Parfois, on trouve BATHX.
Oui, mais alors justement, c'est deux cas très différents. Huawei est la seule entreprise chinoise véritablement internationale qui fonctionne véritablement comme une multinationale. Et ils ont une politique depuis le début et continue pendant 20 ans de réinvestir 20% de leur chiffre d'affaires continuellement, systématiquement, dans la recherche et développement. Jean-François indiquait qu'il y a aujourd'hui 100 milliards de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 20 milliards, un petit peu moins, de dollars d'investissement dans la R&D chaque année, c'est considérable. Les autres entreprises se sont, et Huawei s'est vraiment développé sur les marchés extérieurs.
On va revenir sur Huawei.
Les BATX, c'est vraiment au niveau du marché national, accompagné par l'État, puisque la Chine a mis en place un firewall, ou c'est-à-dire un mur entre son Internet, entre l'Internet chinois et l'Internet du reste du monde. Donc, les BATX sont chacun dans leur domaine, le gagnant de la grande compétition intra-chinoise pour déterminer le champion qui aura accès à l'oligopole sur le marché chinois.
Mais ça montre la capacité du pouvoir chinois à soutenir ses propres entreprises, qu'elles soient privé ou public, le pouvoir central dépenserait l'équivalent de 4% de son PIB par an, soit près de 500 milliards d'euros par an en subventions, Jean-François Dufour.
Alors effectivement, c'est certainement l'une des grandes forces du modèle chinois. En tout cas, c'est une de ses grandes caractéristiques. Ce qui est très intéressant quand vous prenez les fameux BATX et en même temps Huawei, c'est toute l'ambiguïté de ces entreprises, qui est évidente avec Huawei, qui est au cœur de nombreux débats maintenant depuis 2 ans, quant à sa nature réelle et à la nature de ses relations avec le pouvoir chinois. Mais vous trouvez la même chose également sur les autres, qui sont censés être des icônes du secteur privé en Chine. Et je voudrais juste
peut-être les citer, Baidu, Tencent,
oui,
Xiaomi.
Tencent et Alibaba.
Et Alibaba.
Et j'allais m'arrêter sur le cas d'Alibaba qui est, à mon sens, particulièrement éclairant puisque son ancien patron qui a pris sa retraite l'an dernier, Jack Ma, était à l'étranger, et notamment aux États-Unis, l'une des figures emblématiques du secteur privé chinois, justement, qui représenterait une sorte de distanciation par rapport au modèle classique. Et en 2018, s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la presse officielle chinoise, l'air de rien, a révélé que Jack Ma était membre du Parti communiste chinois, ce qui en soi n'était pas une surprise, mais la surprise, c'est le fait que c'est intervenu, c'était une fuite dans la presse officielle au début du conflit commercial avec les États-Unis et quelques mois après que Donald Trump ait reçu à la Maison-Blanche Jack Ma, en le présentant comme un interlocuteur différent de la Chine ancienne. Donc si vous voulez, c'était un petit peu un message, n'essayez pas de nous diviser, le modèle reste soudé.
Alors il y a les aides qui sont apportées par l'État central, mais il faut aussi évoquer les aides régionales fournies par les provinces, les villes, les crédits qui sont facilement délivrés par les banques d'État, ou encore les commandes effectuées par les entreprises publiques. Tout ça favorise la création de champions nationaux, Joël Ruet.
Oui, alors ça, je crois que là, je crois pour le coup, j'ai porté en faux contre ça. Je crois qu'on a vraiment changé d'époque. C'est-à-dire que le chiffre que vous indiquiez devient et va devenir insoutenable à mesure qu'il va y avoir malgré tout quand même du ralentissement, du recentrage, appelons ça comme on veut.
4% du PIB chinois en
oui.
subvention.
Ça a un coût d'opportunité par rapport à ce 4% qu'on pourrait utiliser autre chose à voilà. Et la Chine est en train de raffiner son système aujourd'hui et moi j'en discutais par exemple avec des cadres qui avaient géré les premières subventions sur les premiers véhicules électriques. Qui me disent aujourd'hui on fait plus du tout comme ça, d'abord c'est pas si efficace, et puis il fonctionne autrement, c'est-à-dire il fonctionne par marché public, et sur les marchés publics il fonctionne par les normes technologiques, c'est-à-dire qu'on indique quand une grande municipalité, une province doit passer des marchés publics, le marché public c'est un excellent moyen de tirer les entreprises, on fait la même chose en Europe, hein, il n'y a pas de souci, mais les normes que vous indiquez, si vous voulez, permettre de filtrer, permettre d'indiquer si vous aurez plutôt des constructeurs étrangers, des équipementiers étrangers ou plutôt des Chinois. Et l'idée, c'est de siniser progressivement et tout en tirant vers le haut les entreprises chinoises. Premier point. Et deuxième point, au niveau donc ça c'est au niveau un peu national. Et l'administration qui fait ça, c'est la National Development and Reform Commission, la NDRC, qui est directement pilotée par le Conseil d'État, c'est-à-dire le cœur du gouvernement chinois. Et au niveau des provinces, comme vous l'indiquiez, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les finances publiques des provinces sont un peu exsangues et il y a eu en particulier un outil très original qui est un super ministère de l'environnement qui a été créé en 2018, et le rôle de ce ministère est de forcer, en faisant le détour de la pollution, des normes sanitaires, etc., de forcer les entreprises non rentables à fermer. Donc, j'allais dire, le chèque en blanc, la politique du chèque en blanc n'existe plus.
Il y a en tout cas eu une étape importante dans la trajectoire économique de la Chine. C'est le moment où elle a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Une entrée à l'OMC soutenue à l'époque par le président des États-Unis, Bill Clinton. On l'écoute.
Cet accord est une bonne affaire pour l'Amérique. Nos produits obtiendront ainsi un meilleur accès au marché chinois dans tous les secteurs, de l'agriculture aux télécommunications et en passant par le secteur automobile. Les Chinois n'obtiennent aucun nouvel accès aux États-Unis, rien de plus que ce qu'ils n'ont déjà. Nous avons toujours de sérieux désaccords avec la Chine au sujet des droits de l'homme, sur la prolifération et sur d'autres sujets. Nous continuerons donc à défendre notre point de vue et à protéger nos intérêts. Cet accord ne changera pas la Chine ou notre relation à la Chine en une nuit. Inclure la Chine à l'OMC est une décision gagnante-gagnante. Cela protégera notre prospérité et cela engagera un changement dans le bon sens en Chine. C'est bon pour nos agriculteurs, pour nos industriels et pour nos investisseurs. Encourager la Chine à jouer selon les règles internationales est, je le redis, une étape importante vers un monde plus sûr et plus sain.
Voilà, extrait d'un discours de Bill Clinton tenu en 1999. 20 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que la Chine a joué le jeu de l'OMC, Jean-François Dufour ?
Franchement, non. Mais si vous voulez, pour une raison en fait très simple, qui tient à un malentendu fondamental, alors qui est très intéressant parce qu'il intervenait en 1999, mais il est toujours valable aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend le leadership américain sur cette initiative, l'idée américaine du départ est toujours aujourd'hui, au moins jusqu'à il y a quelques mois, ça a été l'idée que les États-Unis arriveraient à aligner la Chine sur le modèle américain. Or, c'est quelque chose d'absolument impossible pour la simple raison que c'est une question de survie pour la Chine. C'est-à-dire que, pour dire les choses brutalement et simplement, si du jour au lendemain la Chine s'alignait sur le modèle américain, son économie s'effondrerait. Donc vous avez eu, il y a 20 ans, l'idée que la Chine s'alignerait sur ce modèle. Mmh. Vous avez eu, paradoxalement, la même idée qui a présidé à l'offensive commerciale du président Trump à partir de 2018, l'idée qu'il allait forcer les choses. Et en fait, les États-Unis se heurtent systématiquement à une réalité qui est que la Chine ne changera pas ce modèle parce que ce n'est pas possible pour elle, c'est une question vitale.
Mais il n'y a pas eu la relation gagnant-gagnant qu'espérait Bill Clinton.
Bon,
alors c'est Joël Ruet, pardon.
Non, vous avez remarqué que Bill Clinton était quand même assez prudent et il faisait ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire il pensait à voix haute ce qu'il avait envie d'entendre. Bon, aujourd'hui on a une lecture différente, y compris de la position américaine, c'est-à-dire que si on regarde le dernier livre de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, plutôt démocrate, hein, d'ailleurs, Stiglitz écrit directement que la manière dont les accords commerciaux ont été faits non pas pour favoriser le consommateur américain, mais les entreprises américaines, les profits américains et les actionnaires américains. Alors lorsqu'on demande à Stiglitz pourquoi il écrit ça aujourd'hui, pourquoi il ne l'a pas écrit il y a 20 ans, il n'a pas de réponse. Mais premier point, je ne crois pas que les Américains étaient si naïfs que ça. Il y avait des intérêts politiques et
économiques. C'était des choix politiques.
Et en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le pouvoir chinois est très attentif à maîtriser son système et pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'ils ont bien étudié la chute de l'Union soviétique et puis la chute, la décennie de déclin dans les années 90 de la Russie suite à l'adoption radicale du système américain de capitalisme par la Russie. La Chine ne veut absolument pas vivre ça. Elle a besoin de faire un rééquilibrage, mais elle a besoin de décennies pour le faire, ce rééquilibrage.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
C'est Chinatown, The Wild Nothing sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Joël Ruet et Jean-François Dufour sont toujours avec nous pour parler des freins à l'expansion chinoise. Et l'un des exemples les plus emblématiques, c'est celui de Huawei. Les États-Unis accusent le géant chinois des télécoms d'être le cheval de Troie de Pékin. On l'a dit, ces équipements permettraient d'espionner les communications via ce qu'on appelle des portes dérobées. Écoutez la réponse de Huawei.
Huawei n'a jamais installé et n'installera jamais de portes dérobées. Et nous ne permettrons jamais à d'autres d'en installer dans nos équipements. Le Congrès américain n'a jamais pu fournir la moindre preuve pour justifier ces restrictions visant les produits Huawei. Après avoir tout essayé pour dissiper les doutes de certains législateurs américains, nous n'avons pas d'autre choix que cette action en justice.
Guo Ping, président par alternance de Huawei, c'était en mars 2019. Alors les États-Unis invoquent la sécurité nationale pour boycotter l'entreprise. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ou est-ce qu'il s'agit avant tout d'une contre-attaque économique, Joël Ruet ?
Alors là, on touche à un secteur très particulier, les technologies de l'information, mais encore plus les équipements. Moi, je ne suis pas expert, mais ce que me disent des praticiens français, américains, occidentaux, c'est que toutes les entreprises occidentales se tiennent prêtes à installer des portes dérobées. Alors, les occidentaux le font, c'est un secret de polichinelle. Pour des questions de sécurité économique et des questions, j'allais dire, de souveraineté économique. Huawei dit qu'elle ne le fait pas, dit que ça n'a pas été démontré, donc pour le moment, on doit les croire tant que ça n'a pas été démontré, mais enfin, en tout cas, les Occidentaux qui accusent le font. Et dernier point, lorsqu'il y a des contrats, en particulier en Europe, sur des équipements Huawei, vous pensez bien que les contrats sont quand même vérifiés, contre-vérifiés par les services concernés, qui pour le moment n'ont pas émis de remarques très fortes. Et alors, un dernier point malgré tout, c'est que si on renverse l'analyse, et moi je trouve ça assez frappant, sur la question de la compétitivité de Huawei, on revient à la question des subventions, en fait Huawei n'en a pas besoin. Huawei est la seule entreprise au monde qui a consacré depuis 20 ans 20% de son chiffre d'affaires, pas de ses résultats, à la recherche et développement. N'importe quelle entreprise qui ferait ça aurait, soit ça marche pas, soit si ça marche, aurait un avantage comparatif assez net. Donc je crois que c'est faut surveiller toute entreprise dans ce domaine, dont Huawei, dont les autres. Mais en tout cas, il y a un modèle économique qui est intéressant à regarder.
Donc... Mais ce serait tout de même un gros problème si Huawei n'arrivait pas à accéder à la fois au marché américain, mais également à tout le marché européen, alors même que c'est une entreprise qui cherche à briser le duopole tenu par Apple et Google, Jean-François Dufour.
Alors effectivement, ce serait un problème pour la Chine. Je pense que ce qui est intéressant sur le cas Huawei, c'est que la question de l'espionnage économique est bien sûr importante, mais je pense vraiment que c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que je pense que la crainte américaine et le véritable enjeu va beaucoup plus loin, et c'est alors même plus à long terme, mais à moyen terme, la crainte d'une inversion du rapport de dépendance technologique. C'est-à-dire que, si vous voulez, la Chine aujourd'hui est dans une situation de dépendance technologique vis-à-vis des Américains, qu'ils ont d'ailleurs souligné en validant toutes les thèses chinoises. Ça a été la fameuse affaire ZTE, qui est l'autre grand équipementier de télécom chinois et qui, à l'été 2018, a failli disparaître du jour au lendemain parce qu'il a été privé de composants américains. Ça, c'est la situation chinoise aujourd'hui. La crainte des États-Unis, c'est que Huawei, apparaissant aujourd'hui en pointe dans le secteur de la 5G, donc cette fameuse cinquième génération de télécommunications mobiles qui va avoir un tas d'implications sur ce qu'on appelle l'usine du futur, les infrastructures intelligentes. La crainte américaine, c'est qu'un jour, vous ayez des entreprises américaines qui se retrouvent en situation inverse, c'est-à-dire dans une situation de dépendance technologique vis-à-vis d'un groupe chinois. Et ça, c'est inacceptable pour Washington.
À l'heure actuelle, c'est Huawei qui ne peut pas utiliser les applications de Google sur ses produits, et ça lui pose un certain nombre de problèmes. Mais alors, aujourd'hui, on a l'impression que tout l'enjeu repose sur l'Union européenne, et en l'occurrence, les États membres semblent réagir en ordre dispersé, Joël Ruet.
Alors, il faut bien voir que, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. À chaque fois qu'on a un changement technologique, et là, on est dans une rupture technologique majeure au niveau mondial, sur la 5G, mais sur énormément de technologies, hein. À chaque fois qu'il y a cet enjeu-là, se pose la question des bonnes réglementations économiques et qui sous-tendent des rapports de force. L'Union européenne s'est vue imposer, par tout un tas de lobbies qu'on n'a pas nécessairement le temps de décrypter, au moment de sa construction, s'est vue imposer la version américaine de lutte contre les monopoles par ce qu'on appelle la théorie des marchés, dite des marchés contestables, qui consiste à ne pas créer de grands champions européens pour officiellement permettre à un nouvel entrant européen de contester un nouveau marché, etc. Et en réalité, pour ne pas créer des champions européens face aux champions américains. Donc les États-Unis étaient très satisfaits du bon élève européen. Ils sont moins satisfaits de l'élève chinois qui veut sa souveraineté économique et technologique.
Mais c'est pour ça que ce droit de la concurrence en Europe aujourd'hui, il est remis en question,
il
précisément pour faire émerger
doit,
ces champions.
Je pense être nécessairement remis en question au moment où on change de technologie. Et vous avez raison, un certain nombre de pays restent sur européens, sur la lecture économique classique, mais qui à mon avis date de la technologie d'hier, et un certain nombre de pays veulent aller de l'avant, la France en fait partie.
Et est-ce que les difficultés économiques que traverse la Chine actuellement, alors encore une fois, les bouleversements, on peut dire le nommer de différentes façons, mais est-ce que c'est lié aussi au fait que l'Europe en particulier a pris conscience des risques que sa dépendance à l'égard de la Chine pouvait entraîner? On rappelle que la Chine a acquis la gestion partielle ou totale d'une douzaine de ports en Europe. Aujourd'hui, il y a une conscience des risques de cette mainmise croissante des capitaux chinois sur l'économie européenne, Joël Ruet?
Vous savez, une grande partie, à l'inverse, une grande partie du secteur automobile chinois est contrôlée par des entreprises occidentales, donc américaines, allemandes, italiennes, françaises, etc. On est dans une imbrication. Donc la question, c'est de savoir si on veut avoir un donnant-donnant sur des influences croisées ou si on veut découpler et avoir une encore une fois la question de la souveraineté économique qui était une question plus du tout à la mode, un peu passéiste, devient une question structurante, mais elle est beaucoup plus symétrique qu'on ne pense.
Elle a tout de même un déficit commercial de 174 milliards d'euros de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine.
Oui, mais qui est compensé. Vous savez, il faut pas regarder les déficits commerciaux de manière bilatérale. C'est l'erreur que fait l'administration Trump aujourd'hui. Il faut regarder les zones sur lesquelles un pays a des excédents, des déficits, etc., réinvestir dans... et puis regarder secteur par secteur, savoir s'ils sont des secteurs plutôt d'avenir, plutôt passé. Je crois que c'est ça l'enjeu. Les grands chiffres agrégés nous donnent pas grand-chose quand l'économie change aussi rapidement.
Jean-François Dufaux, vous parleriez-vous d'une certaine équivalence ou au contraire, comme la nouvelle Commission européenne qui, elle, qualifie la Chine de rivale systémique?
Alors, ça va devenir préoccupant, comme nous sommes d'accord, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, notamment sur la question de l'interdiction de la construction de champions européens, qui s'est posée au cours des deux dernières années de manière extrêmement aiguë. Je pense qu'il y a une évolution européenne, après avec un problème qui reste le talon d'Achille de l'Europe, c'est qu'on a une évolution d'une partie de l'Europe. Et si vous voulez, la fracture est très nette. Vous avez aujourd'hui, à mon sens, un couple franco-allemand qui s'investit beaucoup sur une politique qui devrait être plus équilibrée par rapport à la Chine.
Et qui cherche à protéger des secteurs clés.
Exactement, c'est ça, à contrôler un petit peu les investissements. Alors, sans désigner la Chine, mais on sait très bien que c'est le principal enjeu. Et à côté, vous avez des pays pour qui la Chine est déjà devenue un partenaire majeur en termes de, pas de survie, mais de maintien en tout cas de leur équilibre économique.
La Hongrie, la Pologne, la République tchèque.
Donc l'Europe de l'Est et un certain nombre de pays méditerranéens comme la Grèce, le Portugal. La Chine a fait une tentative avec l'Italie très marquée l'an dernier, qui s'est heurtée depuis un changement de gouvernement en Italie. Mais il y a clairement, si vous voulez, une tendance de la Chine à exploiter cette division de l'Europe en sachant que ça induit bien sûr un déséquilibre. Si vous voulez, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les provinces chinoises, si énormes qu'elles soient, ce n'est pas le Shandong ou le Henan qui négocient avec l'Europe. Par contre, ça continue beaucoup trop souvent à être les pays européens avec la Chine, et du coup on a un déséquilibre absolument problématique pour l'Europe.
Alors est-ce que la Chine joue des divisions européennes ou est-ce qu'en réalité elle cherche à obtenir un accord commercial avec l'Union, à Joël Ruet?
Alors Hubert Védrine disait dans une conférence que si on regardait les pays membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, si on regardait leur position face à l'Europe, il fallait se mettre à l'aise quant à la Chine. La Chine n'est peut-être pas pro-Union européenne, mais les États-Unis non plus, la Russie non plus, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni non plus, et quant à la France, on ne sait pas toujours. Bon. Moi, je pense qu'il faut commencer par sa propre discipline. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des enjeux, des menaces, des partenariats possibles avec l'ensemble des pays, États-Unis compris, Chine comprise, et qu'aujourd'hui, il faut des partenariats de gré à gré. Et la question, la vieille question des alliances est stratégiquement révolue. Est-ce qu'il vaut mieux un allié qui vous empêche de développer des industries, vos industries propres, ou est-ce qu'il vaut mieux un partenaire tiré rival stratégique qui joue son jeu, charge à vous de l'analyser, de le comprendre et de jouer votre propre partition.
Donc la solution, ce serait un bon accord commercial entre l'Union européenne et la Chine, selon
moi, je crois que c'est un accord technologique. Ce qui se joue, encore une fois, je reste persuadé que le commerce est l'image de la compétitivité. La compétitivité est l'image de l'investissement, est elle-même l'image de l'investissement technologique et de l'investissement humain. Et je crois qu'on a besoin d'un bon accord sur les échanges humains, sur les échanges de compétences, sur le respect des données et sur les programmes technologiques menés séparément, au commun, en partenariat, etc.
Jean-François Dufour, sur cet accord technologique qui pourrait voir le jour entre l'Union européenne et la Chine, ou en tout cas que Joël Ruet appelle de ses voeux.
Je pense que l'éternel problème avec la Chine, c'est effectivement ce qui vient d'être évoqué par Joël Ruet, c'est la connaissance en fait de ce partenaire ou de cet adversaire qui a clairement une stratégie. Je pense que la position anti-chinoise qui consiste à le lui reprocher n'a pas de sens dans la mesure où l'histoire ne parle guère de pays qui travaillent pour les autres. En général, chacun défend son intérêt. À côté de ça, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas être naïf par rapport à la finesse stratégique chinoise. Et disons que je pense que les choses doivent être analysées au cas par cas.
La Chine a énormément investi en Europe, on l'a dit, mais elle a aussi beaucoup investi sur le continent africain au cours des 10 dernières années.
Plus particulièrement au Kenya, où par exemple en 2005 s'est ouvert le premier institut Confucius. Également, la télévision nationale chinoise vient d'ouvrir son tout premier bureau en Afrique, à Nairobi. Aussi, le gouvernement kenyan vient de prendre la décision, tous les enfants qui ont 10 ans pourront apprendre désormais le mandarin à partir de 2020.
Les Chinois sont de très bons professeurs. Le plus dur, c'est certainement la langue. Oui, c'est la langue. Autrement, vraiment, c'est très bien.
Nous venons de plus en plus ici pour aider les Éthiopiens. Ça nous fait penser à notre pays. En fait, l'Éthiopie, ça ressemble à la Chine il y a 50 ans.
Des extraits de reportages réalisés par lemonde.fr et France 2 au Kenya et en Éthiopie. Alors, à quelles difficultés la Chine est-elle aujourd'hui confrontée, Jean-François Dufour, dans sa volonté d'expansion économique en Afrique, à l'heure où cette présence chinoise sur le continent est de plus en plus critiquée?
Alors la Chine est confrontée à un retour de bâton politique qui était un petit peu inévitable. Tout le problème tient à la nature même de son aide, c'est-à-dire que, comme ça a été évoqué plus tôt, sur le continent africain, on n'est pas tant dans une logique d'investissement que dans une logique de prêt chinois. Il y a eu une première phase, il y a eu une vingtaine d'années, qui était orientée vers les matières premières, et aujourd'hui on est beaucoup plus sur la construction d'infrastructures. Là on est en plein dans la logique des nouvelles routes de la soie, avec des chantiers qui bénéficient avant tout aux entreprises chinoises. Et du coup, le problème, c'est que ces prêts qui sont associés suscitent forcément un endettement, avec un débat qui est un petit peu irrésoluble entre des gens qui accusent la Chine d'utiliser ce qu'on appelle le piège de l'endettement, et des gens qui leur répondent en face que s'il n'y a pas d'argent chinois, il n'y aura pas de développement. Donc le problème est éminemment politique et sans réponse totalement claire.
Un problème politique qui trouve des illustrations différentes selon le pays dont on parle. La Chine est particulièrement présente en Angola, en Éthiopie, au Soudan, au Kenya, en RDC. À chaque fois, la situation est différente, Joël Ruet.
Bon, moi, je crois qu'il faut être, sur la question de l'Afrique et de la Chine en Afrique, il faut être à la fois clair sur les termes et prudent sur les analyses. Clair sur les termes, il n'y a pas d'investissement. Si un investissement, c'est, de l'argent, du capital qui est placé durablement dans un pays, dans des actifs productifs, etc., ou des actifs immatériels et qui produisent une valeur mais qu'on laisse fixer, il n'y a pas d'investissement, il y a des prêts. Voilà, ça n'a rien à voir en termes économiques. Je ne pense pas que l'Afrique soit un horizon de développement, d'expansion économique au sens de l'investissement pour les Chinois.
Alors, tout simplement, les intérêts,
tout simplement parce qu'ils trouvent ça trop risqué de placer du capital là-bas, et que par ailleurs, ils ont beaucoup plus l'intérêt est de recycler des surcapacités de production, de mise en place de montage d'infrastructures, etc., dans une logique de bonne relation et dans une logique économique où on est dans des cycles physiques beaucoup plus court terme, le projet réalisé, on repart, etc. Alors évidemment, Jean-François a raison, il faut aujourd'hui sans doute donner une part plus importante aux pays africains, aux entreprises africaines, mais la logique est économique est à court terme et la logique financière est à long terme de hedging, c'est-à-dire de répartition du risque sur les fameux excédents financiers dont je parlais.
Mais lorsqu'on voit les difficultés de l'Europe ou des États-Unis à réguler les velléités expansionnistes de la Chine, à avoir un rapport équilibré au moins dans l'économie, on se dit que des pays africains ou encore les pays d'Asie du Sud-Est ont beaucoup plus de mal à opposer une résistance, qu'elle soit politique ou économique, à la Chine.
Alors, encore une fois, l'expansionnisme est un terme, je vous laisse la responsabilité du terme. Encore une fois, on est dans une transformation aujourd'hui qui est d'ordre technologique, et là, la Chine vise une relation avec l'Europe dont on a commenté qu'il faut qu'elle soit plus équilibrée. Charge à nous de faire notre travail. Elle vise également une transformation de ses capacités technologiques anciennes dont elle a moins besoin sur place, mais qui peuvent être utiles à l'Afrique. Et là, je pense qu'avant de vouloir réguler quoi que ce soit, il faut demander aux Africains ce qu'ils en pensent. Moi, quand j'en parle à des dirigeants d'Afrique de l'Ouest principalement ou d'Afrique du Nord, ils me disent que les conditions financières sont plutôt meilleures, voire aussi bonnes, mais en tout cas les procédures plus simples qu'avec l'oligopole ancien de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, etc. Donc, de leur point de vue, ça ouvre le jeu. Et ça ne veut pas dire qu'ils se précipitent dans les bras de la Chine, mais ça veut dire qu'ils font jouer la concurrence.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une volonté de puissance économique? Peut-être que dans le terme d'expansionnisme, c'est l'aspect géopolitique qui vous gêne, Joël Ruet. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Dufour?
Alors, je pense que plus qu'une question de puissance, on a une question de sécurisation qui reste vraiment le souci principal de la Chine. Je pense qu'une des clés d'analyse de la Chine par rapport à son activité, par rapport au reste du monde, c'est que paradoxalement, le déterminant de cette attitude, c'est la Chine elle-même. Vous avez affaire à l'État historiquement le plus peuplé au monde depuis 20 siècles. Un État dont la principale préoccupation, c'est son propre équilibre social et économique. Et du coup, vous retrouvez ces deux dimensions par rapport à l'Afrique. Vous avez eu d'abord un souci de sécurisation de matières premières afin d'assurer un approvisionnement du marché chinois. Et aujourd'hui, le déterminant, c'est ce souci d'assurer de nouveaux marchés à des entreprises chinoises pour lesquelles tout ce qui est infrastructure est saturée en Chine.
Mais ça rend l'Afrique extrêmement fragile, parce que précisément en cas de ralentissement chinois, ça entraîne une chute du prix des matières premières, et comme l'Afrique exporte 80% de ses matières premières en Chine, les conséquences économiques sur le continent africain sont considérables.
Tout à fait, et c'est toute l'ambiguïté, si vous voulez. Alors avec ce discours, c'est pour ça que je parlais d'une nature essentiellement politique du problème tout à l'heure. Dans le reportage que vous avez diffusé, on entend très bien à un moment le discours « l'Éthiopie, c'est la Chine il y a 50 ans », le discours du grand frère qui est passé par là, puisque la Chine n'a pas été une puissance colonisatrice, mais colonisée elle aussi. Enfin, encore pire à ses yeux, semi-colonisée, le comble de l'humiliation. Et donc, du coup, on a ce discours, et en face, on a cette réalité d'une relation de dépendance qui s'instaure, et toute la difficulté pour Pékin... C'est de jongler entre les deux.
Comment est-ce que vous voyez l'un et l'autre l'avenir de l'essor économique chinois ? Est-ce que, selon vous, il devrait se poursuivre ? La Chine devrait réussir cette transition technologique dont on a parlé ? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à un ralentissement économique de plus grande ampleur, Joël Ruet ?
Alors, je crois que la Chine va rester à plusieurs vitesses. En fait, le rêve chinois, c'est que l'ensemble du territoire, uniformément, passe à une croissance tirée par l'innovation. C'est le modèle un peu de Michael Porter, qui était ce grand stratège, consultant académique, que toute une nation peut se spécialiser dans la technologie. C'est un fantasme, c'est une chimère pour toute nation. Ça l'est encore plus pour l'ensemble de la Chine. La Chine va devoir apprendre à faire deux choses, à continuer à gérer durablement un pays à plusieurs vitesses, et surtout à apprendre à le faire à un moment où ça... population vieillit. Et je crois que la stabilisation de ses ressources, la sécurisation de ses ressources et la partie en effet cachée, souterraine, à lame de fond profonde de l'état profond en Chine. Oui.
Jean-François Dufour, sur les défis qui attendent l'économie chinoise.
Alors, je suis assez peu friand du prévisionnisme, puisqu'en général, ça amène les gens à se tromper. Plus sérieusement, je pense que la Chine a la capacité à poursuivre son modèle grâce à la stratégie qu'elle déploie. Après, avec un bémol majeur, qui est sa capacité à échapper à un accident majeur. Et ce que j'entends par là, c'est à mon avis ce qui est...
Comme une épidémie de coronavirus.
Alors, c'est un des exemples, si vous voulez, d'ailleurs, je crois que ça a été évoqué dans votre émission d'hier, mais je pense que cette économie aujourd'hui est beaucoup plus comparable à ce que la Chine a connu en 2008, et je rajouterai 1998, c'est-à-dire des chocs sur son fonctionnement économique qui induisent un risque majeur potentiel, c'est un accident financier qui entraînerait un effet domino et un effet en chaîne sur son système financier qui est fondamentalement très fragile. C'est le revers de son modèle de développement. Et je pense que la grande inquiétude des autorités chinoises, c'est de gérer cette question. Si vous prenez un exemple très récent, depuis la semaine dernière, les autorités chinoises sont au chevet du groupe Achena, qui est une des très grandes entreprises du transport et du tourisme en Chine, pour éviter une faillite qui pourrait entraîner un effet en chaîne. Et tant que la Chine réussira à échapper à ce type d'accident, je pense qu'elle a la capacité à poursuivre son modèle.
Donc un choc financier à redouter et la principale inquiétude aujourd'hui, mais une capacité à rebondir. On vous a bien compris. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Quasiment à l'arrêt, c'est le commentaire sévère de la Cour des comptes sur l'amélioration des finances publiques dans le rapport annuel qu'elle publie ce matin. Sévère, mais juste.
Eh bien en tout cas, le constat financier fondé sur le même chiffre que le gouvernement est assez juste. Le niveau de déficit public s'établira à 2,2% en 2020. Il ne s'améliore que lentement et celui de la dette publique stagne presque à ras bord, on pourrait dire à 98,8%. 8% du PIB. Alors la Cour confirme là ses prévisions de juin dernier, mais elle déplore aussi l'ambition limitée du gouvernement, puisque les 17 milliards d'euros de baisse d'impôts vont coûter d'autant plus cher que les économies n'ont pas été faites sur la fonction publique, par exemple. Et puis surtout, l'institution souligne un ensemble de risques qui pèsent sur ses prévisions, parmi elles le niveau de la croissance, bien sûr, et puis une brusque remontée toujours possible des taux d'intérêt. Le risque de perte de marge de manœuvre n'est pas pour tout de suite, dit l'ancien conseiller à la Cour des comptes et président de Fipeco François Eckhall, mais écoutez-le, il est bien présent.
Les économies sont partagées. Vous avez d'un côté des économistes plus keynésiens qui vont vous dire que, compte tenu notamment aujourd'hui de la faiblesse des taux d'intérêt, de la faiblesse de la croissance, des besoins en investissement public, il faudrait faire un peu plus de déficit pour investir. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas écarter le risque d'une hausse des taux d'intérêt dans les années qui viennent. Et donc, dans ces conditions-là, on a effectivement très peu de marge de manœuvre, parce qu'on a un déficit public qui est juste en dessous de 3%, mais pas beaucoup, qui va même le dépasser un petit peu en 2019 pour des raisons temporaires. Une dette qui est quasiment à 100%. Si on a une baisse de l'activité économique, parce qu'on a une crise, par exemple, crise sanitaire, dans les mois qui viennent, bah, le déficit va augmenter, la dette va augmenter. Alors, dans un premier temps, on arrivera à la financer. La France a encore une très bonne signature et elle trouvera emprunter encore relativement facilement. Il y a un vrai risque, mais pas pour demain, dans quelques années. Donc, je pense que Macron a fait un pari qui est audacieux, parce qu'en effet, on baisse quand même beaucoup les impôts et cotisations sociales, mais on ne baisse pas autant les dépenses publiques. Donc, tout ceci pourrait se terminer, peut-être pas sous ce quinquennat, mais sous le suivant, par des hausses d'impôts.
Deuxième aspect préoccupant, Xavier, au niveau européen, les finances françaises sont plutôt notées en dessous de la moyenne.
C'est même un contraste saisissant, poursuit la Cour des comptes. Si l'on prend par exemple le rapport des dettes publiques sur le PIB en 2019, en France, il augmente de 0,1 point alors qu'il a baissé de 9 points sur l'ensemble de la zone euro. Alors certes, il y avait des pays qui avaient plus à rattraper, mais quand même, pour l'instant en tout cas, pas de risque de perte de confiance des financiers envers la France à court terme, dit François Eckhall. Mais Moody's vient quand même d'abaisser vendredi dernier la note de la dette souveraine française de positive à stable.
On passe aux brèves et pendant ce temps, l'Assemblée nationale a enfin voté le premier des 65 articles de la réforme des retraites.
Oui, hier sans surprise, au bout de dizaines d'heures de débats, de milliers d'amendements déposés et votés par même pas un quart de l'Assemblée, cet article qui énonce les principes et objectifs sociaux et économiques, c'est-à-dire retraite par répartition, 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, âge minimum et liberté de choix, ça c'était attendu, plus inattendu peut-être dans cet article qu'un député LR qualifie de bonne conscience, c'est l'ajout au dernier moment de quelques ligne sur les aidants familiaux et handicapés et surtout un article entier pour, je cite, garantir aux enseignants des revalorisations salariales. Ça, on en reparlera.
Et enfin, on évoquait les finances françaises. L'Italie, confrontée au coronavirus, pourrait demander à l'Union européenne une plus grande souplesse.
C'est ce qu'a laissé entendre la vice-ministre de l'économie, Laura Castelli, qui parle de marge que l'Union européenne peut accorder à l'Italie en cas de contraction du PIB. Avec une croissance, c'est vrai, prévue à 0,6% en 2020, l'Italie s'éloignait lentement du précipice de la récession. Mais le coronavirus touche particulièrement le Nord, la Lombardie et la Vénétie qui représentent à elles deux 30% du PIB et 50% des exportations de la péninsule. Jusqu'ici, le déficit public prévu en accord avec Bruxelles était de 2,2% du PIB comme en France. Bruxelles, elle, n'autorise pas plus de 3%.
Merci Xavier et à demain.
Down.
Cameras Rolling, extrait du dernier album d'Agnès Obel, album intitulé Myopia. Merci beaucoup Joël Ruet et Jean-François Dufour de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également aux techniciens de France Bleu Provence qui ont assuré ce duplex. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Isot Sicard, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown et Alain de Recourt. À la réalisation, Anne de Pelchin, et à la technique aujourd'hui, Élise Le. Demain, les campagnes chinoises ont-elles profité du boom économique? On en parle avec Thierry Sanjouan et Guylaine Fabre. Et je vous donne également rendez-vous samedi au forum organisé par France Culture à la Sorbonne. 2020, la société face au conflit. C'est le titre de ce forum qui commencera à 10h avec le cours de l'histoire de Xavier Mauduit. Nous, on parlera de lutte des classes. Est-ce que c'est toujours d'actualité à 14h30? En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast.